Évangile selon Jean, chapitre 2, les noces de Cana, versets 1 à 12.
Lecture de la parole. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les vaisseaux. » Et ils les emplirent jusqu'au haut. Et il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître d'hôtel. » Et ils lui emportèrent. Mais lorsque le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui était devenue du vin, et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître d'hôtel appelle l'époux et lui dit, « Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum, lui et sa mère, et ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent peu de jours.
Lecture de l'étude. Nous avons vu au premier chapitre 2 jours symboliques. Le premier représente le temps actuel, dans lequel les croyants suivent Christ après son rejet, depuis que Jean le baptiseur l'a présenté jusqu'à ce qu'il renoue ses relations avec Israël. Dans le second, nous voyons l'appel du résidu juif dans la personne de Nathanaël, qui reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Pour compléter le tableau symbolique de ce qui se passe depuis Jean le baptiseur jusqu'à l'établissement du règne de Christ, il fallait un troisième jour que notre chapitre présente par les noces de Cana, symbole de l'établissement du règne de Christ au point de vue de la joie qui caractérisera le règne millénaire. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi convié à la noce ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Versets 1 à 5. Ce récit nous montre comment le Saint-Esprit se sert d'un fait historique pour donner la pensée de Dieu. Lorsqu'on parle d'une noce, on s'attend à la description des époux, du menu du repas et de la gaieté qui régnait dans la fête. Ici, rien de pareil. Deux faits capitaux caractérisent ce récit. Le vin vient à manquer, et le Seigneur en donne du meilleur. L'enseignement divin n'est pas difficile à trouver si l'on se rappelle que, dans la parole, le vin est l'emblème de ce qui donne la joie, soit pour Dieu, soit pour les hommes. Voir Juge 9, verset 13.
Et la vigne leur dit, « Laisserai-je mon mou qui réjouit Dieu et les hommes ? Et irai-je m'agiter pour les arbres ?»
Le Seigneur et ses disciples sont conviés à cette noce. Sa mère était aussi là, symbolisant Israël dont le Christ est issu. Romains 9, verset 5.
Desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose, Dieu béni éternellement. Amen.
L'ensemble de ces personnes représente ceux qui, au milieu des Juifs, ayant reçu le Seigneur comme Messie, s'attendait à le voir établir son règne. Dans l'état où se trouvait le peuple, le vin manquait. Il n'y avait pas de joie en Israël. Pour que la joie se produise, il faut que tout soit en rapport avec la pensée de Dieu, afin qu'il soit libre de faire jouir de sa présence et de ses bienfaits. La joie régna jadis en Israël, lors de certaines délivrances et manifestations de la grâce de Dieu, tout particulièrement sous le beau règne de Salomon. mais tout se gâta bientôt à cause de l'infidélité du peuple, et la joie disparut, le vin vint à manquer. Elle ne pouvait subsister ni pour Dieu ni pour les hommes, alors qu'elle dépendait de l'obéissance du premier homme. Pour qu'Israël jouît d'une pleine bénédiction, il fallait que vînt le Messie promis. Précisément, il était là, et ceux qui l'entouraient, ceux qui l'avaient reçu, pensaient qu'il allait donner la bénédiction et la joie qui faisaient absolument défaut chez le peuple. Aussi, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Au lieu de se mettre à l'œuvre pour en donner, Jésus lui répond, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Pour que les bénédictions apportées par le Christ puissent s'accomplir à l'égard de son peuple terrestre, ce qui aura lieu dans son règne millénaire, il fallait sa mort. C'est ce que Jésus dit à sa mère. Son heure n'était pas encore venue. L'expression « mon heure » que l'on rencontre souvent dans cet évangile désigne sa mort. Voir chapitre 7, verset 30.
Il cherchait donc à le prendre et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue.
Chapitre 8, verset 20.
Et il dit ses paroles dans le temple, enseignant dans le temple, et personne ne le prit parce que son heure n'était pas encore venue.
Également Jean 12, verset 23, 27 et 13, verset 1. C'est comme si Jésus disait à sa mère, « Pourquoi me demandes-tu de donner la joie au peuple ?» tant que je n'ai pas accompli l'œuvre en vertu de laquelle je pourrais le faire. Dans l'état de péché où se trouvait le peuple, ce n'était pas possible. Il fallait la mort de Christ pour mettre fin à l'homme en Adam et régler la question du péché selon les exigences de la justice de Dieu, afin que Dieu pût accomplir ses pensées sur le pied de la grâce, soit envers les Juifs, soit envers tous les hommes. La mère de Jésus, confiante en lui, dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faire ce que dit le Seigneur est le seul principe de bénédiction dans toutes les circonstances, lors même que, comme sa mère, on ne comprendrait pas la portée de ses paroles. Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les vaisseaux. » Et ils les emplirent jusqu'au haut. Et il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître d'autel. » Versets 6 à 8. Pour jouir des bénédictions promises, la mort de Christ ne suffit pas. Une œuvre profonde de repentance et de purification s'accomplira chez le peuple grâce à un travail de conscience produit par les circonstances terribles qu'il traversera au dernier jour. Alors ils regarderont vers celui qu'ils ont percé, ils se lamenteront comme on se lamente sur un fils unique. Dire Zacharie 12, versets 10 à 14.
Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadad-Rimmon dans la vallée de Mégidon. Et le pays se lamentera, chaque famille à part. La famille de la maison de David à part, et leurs femmes à part. La famille de la maison de Nathan à part, et leurs femmes à part. La famille de la maison de Lévi à part et leurs femmes à part. La famille des Chimites à part et leurs femmes à part. Toutes les familles qui seront de reste, chaque famille à part et leurs femmes à part.
Ils devront juger toute leur idolâtrie passée aussi bien que le rejet de leur Messie. Après cela se réalisera ce que dit Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 17, ainsi que nombre d'autres prophètes. Exulte, fille de Sion, pousse des cris, Israël, réjouis-toi et égaie-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant, il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet, il se reposera dans son amour, il s'égaiera en toi avec chant de triomphe. Sans un profond travail de repentance, ce que les prophètes avaient annoncé, ce que désirait aussi la mère de Jésus et ses disciples ne pouvait avoir lieu. et ce travail était bien loin de s'accomplir chez les Juifs orgueilleux, remplis de propre justice et de haine pour le Seigneur. Semblables aux vases de pierre dans leur endurcissement, ils étaient vides de cette eau morale de la purification et de repentance. Il fallait que, par l'affliction et la souffrance, ils en fussent remplis jusqu'au haut. Alors leur détresse se changera en joie par la venue du Seigneur. L'eau deviendra du vin, un vin bien meilleur que le premier. Le maître d'hôtel s'étonne de ce que ce bon vin n'a pas été servi le premier. Comme beaucoup, il ne comprenait pas que, dans ses voies parfaitement sages, Dieu commence par laisser l'homme à sa propre responsabilité pour qu'il fasse l'expérience de son incapacité à produire quoi que ce soit qui attire sur lui la bénédiction de Dieu. Cette expérience faite, Dieu entre en scène et, sur le pied de la grâce, en vertu de la mort de Christ, il donne ce qui est meilleur et qui demeure éternellement. L'homme agit autrement. Il sert le bon vin le premier. Cherche à jouir d'abord de tout ce que lui offre la nature ou le monde, jeunesse, santé, famille. Mais rien ne se maintient dans cette création où le péché a tout gâté. Le moindre vient ensuite et finalement la mort. Il n'y a que ce qui est de Dieu, une nouvelle création qui puisse se maintenir dans son éternelle fraîcheur. Grâce à Dieu de ce qu'il ait gardé le bon vin pour le dernier, joie offerte à chacun par l'Évangile, en attendant qu'Israël en jouisse dans le règne de Christ. Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Verset 11. La gloire du Seigneur consiste en ce qu'il est, ici, l'auteur de la bénédiction et de la joie millénaire. Quand ils le virent, ses disciples crurent en lui, comme le résidu juif lorsqu'il verra le Seigneur. Ce troisième jour nous présente donc l'introduction de la joie qui sera la part du peuple juif dans le millénium, en vertu de la mort et, par conséquent, de la résurrection de Christ. Il est appelé troisième jour au lieu de lendemain, comme les jours précédents, la résurrection du Seigneur y étant impliquée. Le terme de troisième jour désigne souvent ce jour si important. Verset 19.
Jésus répondit et leur dit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai.
Marc 9, 31.
Car il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et ayant été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour.
Luc 9, verset 22.
Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour.
Luc 24, verset 21.
Or nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël. Mais encore, avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées.
Après cette scène, le Seigneur descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples, figure du peuple réunie autour de lui après la manifestation de sa gloire. Purification du temple, versets 13 à 25.
Lecture de la parole. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple, et les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs donc répondirent et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu que tu fasses ces choses ?» Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs donc dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et toi tu le relèveras en trois jours ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'ils faisaient. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme.
Lecture de l'étude. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem, verset 13. Nous remarquerons ici, pour ne pas y revenir, que, dans cet évangile, les fêtes sont appelées « Fêtes des Juifs ». Chapitre 5, verset 1er.
Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.
Chapitre 6, verset 4.
Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
Chapitre 7, verset 2.
Or la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche.
Sauf la dernière Pâque, parce qu'elle coïncidait avec la mort de Jésus, antitype de cette fête. Chapitre 13, verset 1er.
Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père.
À l'origine, ces fêtes étaient des fêtes à l'Éternel, mais elles avaient perdu leur caractère parce que l'Éternel, présent au milieu du peuple dans la personne de Jésus, avait été rejeté. Elles devenaient donc simplement une fête des Juifs. Jésus trouva le temple encombré par les animaux et ceux qui les vendaient aux Juifs, venus de loin pour célébrer la fête. Il renversa les tables de ceux qui changeaient les monnaies et ordonna aux vendeurs de colombes d'éloigner ces oiseaux. « Ne faites pas, dit-il, de la maison de mon père une maison de trafic. » C'est 14 à 17. Cette purification du temple figure celle que le Seigneur accomplira à sa venue en gloire. C'est pourquoi elle prend place dans cet évangile, après la noce de Cana, qui préfigure l'établissement du millénium. À sa venue glorieuse, où il apportera la joie aux résidus souffrants, le Seigneur trouvera le temple souillé par l'idolâtrie des apostats, et il le purifiera, afin qu'il devienne non seulement le saint lieu du culte rendu à l'Éternel, mais comme le dit Ésaïe 56, versets 6 et 7, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». Les autres évangiles racontent la purification du temple après l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem. Matthieu 21, Marc 11, Luc 19. En Jean, l'Esprit de Dieu ne présente pas Jésus au peuple pour être reçu comme Messie, mais il donne, dans les deux premiers chapitres, un tableau symbolique de ce qu'il accomplit sur la terre depuis son introduction par Jean le Baptiseur jusqu'à l'établissement de son règne. C'est pourquoi ce tableau se termine tout naturellement par la purification du temple qui aura lieu au commencement du règne. Malachie montre le Seigneur venant soudainement à son temple où il accomplit ses jugements. Chapitre 3, versets 1 et 2.
Voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, mais qui supportera le jour de sa venue, et qui subsistera lorsqu'il se manifestera, car il est comme un feu d'affineur, et comme la potasse des foulons.
Une fois de plus, on peut admirer la beauté et la précision des écrits inspirés, là où la raison humaine ne voit que des contradictions. Témoins de ce que Jésus faisait, les disciples se souvinrent des paroles du psaume 69, verset 9, « Le zèle de ta maison m'a dévoré », verset 17. On comprend l'effet que produisait sur le Seigneur, si ardemment dévoué aux intérêts de son Père, la profanation de ce temple qu'il reconnaissait comme la maison de son Père, par le peuple qui l'honorait de ses lèvres et dont le cœur était fort éloigné de lui. Voir Ésaïe 29, verset 13.
Et le Seigneur dit, « Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. »
Frappés de l'autorité du Seigneur, les Juifs lui disent, « Quel miracle nous montres-tu que tu fasses ces choses ?» Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs donc dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et toi tu le relèveras en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps, verset 18-20. Jésus donne sa mort et sa résurrection comme signe aux Juifs pour établir par quelle autorité il agissait de la sorte, lui, le vrai temple de Dieu, celui en qui Dieu habitait au milieu de son peuple, quoiqu'il appelât le temple la maison de son Père. Dans cet évangile, tout est en rapport avec la gloire de la personne divine de Jésus. C'est lui qui relèvera le temple, son corps, que les Juifs croiront avoir détruit. Il ressuscitera le troisième jour. Au chapitre 10, versets 17-18, il laisse sa vie et il la reprend. Il a le pouvoir de la laisser et le pouvoir de la reprendre.
À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père.
Vu sous la dépendance de Dieu, c'est Dieu qui le ressuscite. Pierre dit en acte 2, verset 32, « Dieu l'a ressuscité, mais vu dans la gloire de sa personne divine, c'est lui qui se ressuscite. » Cette scène, comme celle de la noce de Cana, est fondée sur la mort et la résurrection du Seigneur. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite, verset 22. Ce que le Seigneur disait avait la même valeur que les Écritures qu'il possédait alors. Les disciples ont pleine foi en la personne de Jésus quand ils voient sa gloire manifestée dans les deux scènes de ce chapitre, versets 11 et 22, qui présentent les deux côtés de l'exercice de sa puissance, en bénédiction et en jugement, lorsqu'il viendra établir son règne. Les versets 23 à 25 se rattachent plutôt au chapitre 3. Pendant la fête, Jésus fit des miracles qui ne nous sont pas rapportés. En les voyant, plusieurs crurent en son nom, mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Par ses paroles, la divinité de Jésus est affirmée. Il savait ce qui se passait dans les cœurs de tous autour de lui. La vue de ces miracles produisit, en ceux qui en avaient été témoins, une certaine conviction, mais pas la foi. La puissance que Jésus manifestait leur fournissait la preuve de ce qu'il était, mais ils s'arrêtaient à cette constatation. Pour avoir la vie, il faut croire la parole. Les miracles, les événements sensationnels, les épreuves peuvent produire des impressions, disposer le cœur à écouter la parole de Dieu. Et si l'on ne croit pas, ces effets ne sont que passagers sans vie. Comme la semence tombée dans les lieux pierreux et les épines. Il est probable que nous retrouvons de ces gens parmi les disciples du Seigneur qui se retirèrent de lui parce qu'ils ne pouvaient admettre sa parole. Chapitre 6, verset 66.
Et dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne marchaient plus avec lui.
Le chapitre 6 des Hébreux mentionne des personnes de cette catégorie. Elles avaient été sous l'action de l'Esprit, de la parole et des miracles, sans avoir la foi. On peut tromper les hommes, mais non pas Dieu.